Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Dans quelques minutes, Laurent Gérard et toute son équipe, mais tout de suite à 8h40, la revue de presse, elle est signée Isabelle Choquet et dans vos journaux ce matin, bonnes ondes et mauvaises ondes.
Bonnes ondes d'abord pour Dia, 20 ans, qui se prépare pour la Coupe du Monde de foot. Alors pas d'hôtel de luxe, pas de horde de supporters en folie. Donc Dia va participer au Mondial des sans-abri qui se jouera fin juillet au Pays de Galles. La Croix a suivi l'entraînement des 8 joueurs de l'équipe de France à Montpellier. Alors bon, les corps ne sont pas tous affûtés, les shorts ne sont pas parfaitement ajustés. Patrick, le travailleur social, les a tous emmenés chez Decathlon. Géo, surnommé le daron de la bande, s'est pris des gants de gardien et une coquille. Dia, justement, a choisi ses crampons. La veille, il ne pouvait pas jouer correctement à cause d'une chaussure à la semelle éventrée. Emmanuel, quand on lui a proposé de venir passer les sélections, il était gêné de voir tout cet argent dépensé dans des billets de train rien que pour lui. Voilà, c'est comme ça, ils ont tous des parcours cabossés, ils ont tous connu la rue. Quelques séjours en tôle aussi pour Samy, qui a finalement participé au Mondial l'an dernier au Mexique. À l'époque, je dormais sous un porche, dit-il. La coupe, ils la veulent tous, mais le vrai, véritable objectif est ailleurs. Le foot n'est qu'un support, explique Patrick. Le sport, ça demande de se mobiliser pour sa propre santé. Ça nécessite aussi qu'ils aient leur papier d'identité, une chose assez rare pour un sans-abri. C'est pareil pour la carte vitale. Par passion, ils font ce qu'ils n'ont pas entrepris parfois depuis des années. Après la coupe, Emmanuel passera son permis.
Alors, dans la voiture, sans doute un GPS, mais avec ces engins, il y a parfois de la friture sur la ligne.
À chaque déplacement de Vladimir Poutine, c'est étrange. Les bateaux alentours ont des problèmes de GPS. Leurs coordonnées soudain sont fausses. Dans le jargon spatial, ces erreurs de positionnement sont le résultat d'un spoofing, une usurpation du signal GPS. Selon les études américaines, en 2 ans, les Russes ont spoofé, on va dire ça comme ça, près de 10 000 fois. Des bulles électromagnétiques protègent ainsi le Kremlin à Moscou, mais aussi des datchas d'oligarques. Moscou est pionnier dans ce domaine, nous dit l'Express. Celui qui maîtrise la totalité du spectre électromagnétique dominera le monde. Voilà ce que disait un amiral soviétique pendant la guerre froide. Alors cette guerre des ondes est de retour depuis 2014 en Ukraine et surtout en Syrie. Avec ses grosses antennes, le camion de guerre électronique Krasouka 4 peut brouiller toutes sortes de signaux jusqu'à 300 km à la ronde. Pour les armées occidentales, c'est un vrai souci. Le GPS leur permet de positionner leurs blindés ou leurs navires et d'améliorer la précision des armes. Aujourd'hui, les militaires sont obligés de s'entraîner de plus en plus à se passer du GPS. Les soldats réapprennent à se déplacer avec une carte et une boussole. Les marins, ils apprennent à se diriger grâce aux étoiles et aux sextants. Cette guerre des ondes dépasse aussi le cadre militaire. Le signal joue le rôle d'horloge universelle, par exemple dans les transactions bancaires, dans la téléphonie mobile, pour Internet, pour la radiodiffusion, pour le guidage même des machines agricoles et puis bien sûr pour les avions civils. Le puissant brouillage russe déborde un peu de la zone syrienne. Alors depuis 3 semaines par exemple, l'aéroport de Tel Aviv rencontre quelques perturbations. Autre motif d'inquiétude, la multiplication des petits brouilleurs civils. C'est illégal officiellement, mais il est assez facile de s'en procurer pour une poignée d'euros sur des sites Internet. Ils peuvent perturber un avion volant à 2000 mètres d'altitude. En avril 2017, par exemple, à Nantes, plusieurs avions de ligne n'ont pas pu décoller en raison d'un brouilleur resté allumé sur la prise allume-cigare d'une voiture qui était garée sur le parking de l'aéroport. Tout ça pourquoi ? Eh bien, le propriétaire ne voulait pas être tracé par son employeur. Alors, on nous jure que les contrôleurs aériens et les pilotes peuvent toujours reprendre le contrôle. Oui. Ben, espérons, parce qu'en 2030, la navigation par satellite, ce sera la norme pour toute l'aviation civile en Europe.
Bon, je suis pas rassuré. Puisque nous sommes en avion, ben, passons la douane.
La douane et ses trésors, c'est qu'ils envoient passer les douaniers, hein, ces en lutte contre les trafics d'œuvres d'art ou d'espèces protégées. Des prises parfois bien encombrantes, comme ce lionceau vivant retrouvé en octobre dans un garage marseillais. Le défi, c'est d'abord de garder les animaux en vie. Sur les 100 rossignols du Japon retrouvés entassés dans des caisses en bois, la moitié était morte la première nuit, déshydratée. Les trafiquants rivalisent d'inventivité. Un Néerlandais avait aménagé des pochettes à l'intérieur de son caleçon pour y cacher, devinez quoi, 10 de colibris dont il avait scotché les ailes. Il a attiré l'attention de l'hôtesse parce qu'il les alimentait avec une pipette précisément en écartant l'élastique du caleçon.
Oui.
Rien qu'en 2018, la douane a saisi 74 perroquets, 55 reptiles, des caméléons, des iguanes, des lézards, des varans et 40 tortues. Les léopards empaillés, eux, finissent au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Les écailles, les cornes, les peaux, les fourrures sont généralement détruites, mais pas toujours. En mai, 1 kg d'écailles de tortue a été préservé pour restaurer 2 carapaces du musée d'art. Et puis, il y a d'autres pépites, hein, le squelette d'un dinosaure vieux de 70 à 60 millions d'années, un tableau de pics Picasso, évalué à 25 millions d'euros. Un rarissime plan en or considéré comme une pièce maîtresse du trésor de Lava, un navire romain échoué au large de la Corse au 3e siècle. Inventaire à la Prévert, signé par l'AFP. Tout ça est restitué, mais ça prend du temps, souvent des années.
Alors, on parlait GPS il y a quelques instants. On parle aussi klaxon dans la presse ce matin.
Avec cette étude insolite dévoilée par le Parisien, étude sur l'utilisation du klaxon. Si vous pensez que les jeunes sont les plus prompts à jouer de la trompe, eh bien, justement, vous vous trompez. 16% de klaxonneurs chez les 18-39 ans, mais 26% chez les 70 ans et plus. Alors, les mauvaises langues diront que les conducteurs les plus âgés se manifestent parce qu'ils deviennent sourds, écrit le Parisien. Eh bien, pas du tout. Non. Il y aurait en fait une génération klaxon, ceux qui sont nés après la guerre, qui se sont initiés à la route sur une Ford ou une Lada dans les années 60-70. Ils ont appris à conduire en appuyant sur l'avertisseur, explique un spécialiste du droit routier. À l'époque, les moniteurs d'auto-école enseignaient que dans le doute, on donne un petit coup par courtoisie pour prévenir les autres. Apparemment, les conducteurs plus expérimentés ont aussi l'avertisseur moralisateur. C'est un défaut d'automobiliste âgé, dit un moniteur. Ils ont tendance à considérer que tous les autres sont des délinquants à qui il faudrait apprendre les bonnes manières.
C'est bien ça, oui.
Rappelons tout de même qu'en ville ou la nuit, il est interdit de nutnuter, sauf danger immédiat. C'est vrai, ça défoule, mais ça énerve, ça diffuse de mauvaises ondes, sauf si vous avez la cucaracha. Mais ça, c'est un petit peu passé de bonne.